Nous sommes montés à la montagne ce matin. Nous avons atteint déjà un premier sommet et nous allons continuer notre ascension. C'est important de monter à la montagne et c'est important d'être dans l'intimité pour pouvoir avoir accès à la révélation. La révélation. Recevoir une révélation du Seigneur à l'intérieur. Être transformé de l'intérieur. Voir Jésus comme il est. Le voir dans sa gloire. Comprendre quelque chose. Vous savez, la révélation, c'est aussi quand tout à coup, il y a la pièce de katsu qui tombe. Tac ! Ça y est ! Eureka ! J'ai compris ! La révélation, elle peut se manifester de plusieurs manières. Alors qui ne désire pas voir Jésus tel qu'il est? Qui ne désire pas une révélation plus grande? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu se révèle. Et il ne se révèle pas à n'importe qui ni n'importe comment. Alors j'entends déjà certains qui me diront, ben oui, si on pense à l'apôtre Paul, il est tombé de son cheval, lui il allait persécuter des chrétiens et Jésus s'est révélé à lui. Et si on écoute les témoignages de nombreux musulmans, actuellement et de plus en plus, Jésus visite bon nombre d'entre eux dans leur sommeil, dans leur chambre, dans la nuit. Et c'est Jésus qui se montre dans sa gloire, qui se révèle et ça transforme leur vie. Ce sont des gens qui n'ont rien cherché. Mais pour nous qui appartenons au Seigneur, il y a des critères. Et un des critères pour recevoir la révélation du Seigneur, c'est l'intimité. Et cette intimité, elle est liée à la montagne. Vous allez voir, pour finir, il y a toutes les pièces du puzzle qui vont se mettre ensemble. Alors, je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Marc. Et s'il y a quelque chose qu'il faut se souvenir aujourd'hui, c'est que Dieu se révèle dans l'intimité. Et s'il se révèle, c'est pour nous transformer. Dieu se révèle dans l'intimité. Et s'il se révèle, c'est pour nous transformer. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous continuons à suivre Marc, ou à suivre Jésus dans l'évangile de Marc. Et voilà, nous sommes au chapitre 9, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. 6 jours après, c'est-à-dire 6 jours après le chapitre 8. Et dans le chapitre 8, à un moment donné, Jésus il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et puis les disciples disent, il y en a certains qui disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste ou un prophète. Puis Jésus il dit, et vous? Vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il dit, tu es le Christ. Une confession de foi tellement profonde. Mais si on lit la suite, on se rend compte qu'il n'a rien compris. Il a confessé qui est Jésus, et Jésus est le Christ. Mais il ne comprend pas, ou pas encore, c'est qui le Christ? C'est quoi? C'est comment? Qui? Qui est ce Christ? Et ce passage que nous allons lire ce matin, eh bien, c'est un peu une sorte de réponse à cet événement-là. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Le foulon, c'est le lessiveur, où on peut dire qu'il n'y a personne sur la terre. En fait, il n'y a rien d'humain, il n'y a pas de technique humaine qui peut provoquer une telle blancheur. C'est quelque chose qui nous dépasse. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, c'est-à-dire maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressuscité des morts ». Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, il rétablira toute chose. » Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Et là Jésus dit, « Eh bien ça va être pareil pour le Messie, selon ce qu'il est écrit de lui. » Mais reprenons dès le début. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les emmène à la montagne. Et à un moment donné, Jésus, il est transfiguré. Jésus se révèle dans sa gloire. Il se montre tel qu'il est ou en partie de tel qu'il est parce que sa gloire remplit les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Ils n'ont pas tout vu, mais ils ont vu quelque chose de la divinité. Quelque chose de la gloire du Seigneur. En fait, c'est une expérience qui est hors du temps et dans le temps. Surnaturelle, mais dans le naturel. Divine, humaine. Vous vous souvenez, la semaine passée, quand Ritz a prêché, il nous a parlé des portails, il nous a parlé des portes, puis il a donné cet exemple, il a dit si... Voilà, si on coupe l'assemblée en deux, ben cette partie-là, c'est l'éternité, cette partie-là, c'est le temps. Et c'est comme si au milieu, il y a une porte. Il y a un point de jonction. Et les disciples avec Jésus, ils sont justement à cet endroit-là. C'est l'endroit de la révélation. Une réalité surnaturelle manifestée dans le naturel. Alors bien sûr, une fois de plus, et il me semble que depuis quelques mois, c'est une image dont on entend parler souvent, mais ça fait penser à cette échelle de Jacob. Vous savez, Jacob qui installe une pierre pour en faire son oreiller, il dort dans la plaine, quelque part, un endroit qu'il aura nommé Bethel, maison de Dieu, mais il dort et à un moment donné, il a une vision, il voit une échelle, les anges de Dieu qui montent, qui descendent et la voix de Dieu qui retentit, qui lui donne des prescriptions et des encouragements. Vous pouvez le lire dans Genèse 28. Mais dans le cas de Jacob, il dormait. Les disciples ici sont bien éveillés. Vous pouvez aller lire dans les autres évangiles. Il y a juste Luc qui dit qu'ils étaient appesantis de sommeil, mais... il se maintenait réveillé. Nous sommes vraiment dans ce point de jonction entre le ciel et la terre, entre le surnaturel et le naturel, entre l'éternité et le temps, entre la divinité et l'humanité. Un point de jonction, un point de friction. Et à un moment donné, Moïse et Élie apparaissent. À un moment donné, Moïse et Élie apparaissent. Alors pourquoi Moïse, pourquoi Élie? On pourrait en parler longtemps. Et puis j'aimerais pas trop focaliser mon propos là-dessus. Mais Moïse, vous savez qu'il représente la loi. Élie représente les prophètes. Jésus est roi. Les trois ministères. Les trois onctions. Mais je veux pas aller trop loin dans ce sujet-là. Mais par rapport à Moïse et Élie, il y a autre chose. Souvenez-vous, où est-ce que Moïse a rencontré Dieu ? Sur la montagne, Exode 24, premier verset. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Et vous pouvez lire tout ce chapitre 24 du livre de l'Exode. Moïse monte à la montagne et c'est une fois qu'il est en haut de la montagne seul avec Dieu que Dieu se révèle. Et c'est là, entre autres, qu'il reçoit les tables de la loi. Mais pas seulement. C'est là que Dieu se révèle à Moïse. Et Élie. Élie, vous pouvez lire l'histoire dans 1 Roi 19. Élie qui a, comment est-ce qu'il faut dire, qui a décapité, j'allais dire zigouillé, mais je ne savais pas si j'avais le droit, voilà, qui a tic pour tous les prophètes de Baal, puis après il a une espèce de creux de vague, où on ne sait pas exactement, on a donné toutes les interprétations possibles, et il se taille dans le désert, mais Dieu envoie un ange pour le nourrir. Et 1 Roi 19, 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, tous les éléments se déchaînent et à un moment donné, Dieu se révèle dans un murmure doux et léger à la montagne. Il y a quelque chose avec cette montagne. Et là où je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a trois mentions ou trois descriptifs, je ne sais pas comment il faut appeler ça, pour parler de ce contexte, du contexte de comment et où la transfiguration de Jésus a lieu. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Seul, à l'écart, sur une haute montagne. Seul, c'est-à-dire seulement. Jésus prit seulement Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas les 12 qui sont montés. Ce sont les plus intimes. C'est ceux qui sont le plus proches. Ce n'est pas une question de rôle. Ce n'est pas une question de fonction. Ce n'est pas une question d'étiquette. Ce n'est pas une question de prestige, de culture, d'âge. La liste, on peut la rallonger. C'est une question de cœur. Ils sont intimes parce qu'ils boivent les paroles du Seigneur. D'ailleurs, si on lit l'histoire de Pierre, ça le fait réagir, ces paroles. Il répond, il est bien là. Jean, c'est celui qui posait sa tête contre l'épaule du Seigneur. Ils sont impliqués, ils sont concernés d'une manière plus proche. Et c'est pour ça que Jésus les prend, eux, à part, parce qu'ils sont intimes. Et il les prend à l'écart, c'est-à-dire loin de toutes les sollicitations, loin de la foule. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les premiers chapitres de Marc, mais Jésus, il guérit tellement de personnes, il libère tellement de personnes que pour finir, les gens, quand ils le voient passer, ils se jettent sur lui pour être guéris, parce qu'il suffit de le toucher et les gens sont guéris, à tel point que Jésus a dit, mais préparez-moi une barque et je vais enseigner depuis l'eau sur la barque, sur la rive du lac de Galilée, parce qu'il fallait juste pas qu'il se fasse écraser, tout simplement. Jésus prend ses trois disciples à l'écart de toutes les sollicitations. Et où est-ce qu'il les prend? Pas seulement sur la montagne, mais sur une haute montagne. Et je ne sais pas si vous avez déjà gravi une haute montagne. Eh bien, pour aller à la montagne, à pied, on est d'accord? Je sais que nous sommes en 2024, mais je parle d'une ascension à pied. Il faut se dépouiller de tout ce qui est inutile, de tout ce qui peut freiner la marche. Parce que quand on est lourd et chargé, c'est difficile d'arriver en haut. Et monter à la montagne, ça demande un effort. Ça demande de la motivation, de la persévérance. C'est le premier chant que nous avons chanté ce matin. Ça demande de la persévérance. Sur une haute montagne, loin de la ville, loin du reste du monde, dans un endroit où c'est à peu près dépouillé de tout. Et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que il n'est pas possible de connaître Jésus et de le faire connaître efficacement sans avoir une révélation et donc sans être intime avec lui. Regardez ce que les disciples ont dit, dans, c'est Pierre qui a dit dans sa deuxième lettre, 2 Pierre, à partir du verset 16. Il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté. » Révélation. « Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Les disciples ont vu le Seigneur, ils en ont reçu une révélation lorsqu'ils étaient dans l'intimité. Et à cause de ça, ils peuvent en parler. Faire connaître Jésus sans le connaître intimement, c'est difficile. On va pouvoir faire connaître des principes, des théories, de l'histoire, mais pas la vie, pas la révélation. Alors, c'est tellement important de prendre des temps d'intimité. Dans la routine, dans le rythme, dans l'agitation de nos journées, se mettre seul, se mettre à l'écart, ça veut dire se dépouiller de tout ce qui est obstacle, se dépouiller du péché, se dépouiller d'un téléphone qui prend beaucoup de place et qui a d'autres fonctions que le téléphone, ça veut dire mettre à l'écart et de le faire régulièrement, régulièrement. Communier avec le Saint-Esprit. Ça vous est sûrement déjà arrivé, parce que j'espère que je suis... Enfin, si, ce serait mieux que je sois toute seule, mais je ne pense pas que je sois toute seule. Que tout à coup, vous arrivez à la fin de votre journée, puis vous dites, waouh, j'ai quasiment pas prié aujourd'hui. Et puis, il manque quelque chose. Moi, je me rends compte que même quand je commence mes matinées dans la parole, dans la prière, mais si le reste de la journée, je ne me suis pas arrêtée, j'arrive au bout, je me dis, mais... que j'ai fait aujourd'hui. Il me manque tellement cette communion. Il faut de la persévérance et de la motivation pour se tenir seul à l'écart et gravir la montagne. Mais il est important de s'arrêter. Et se mettre à l'écart, c'est s'arrêter même 30 secondes, même quand tu es au boulot. Juste 30 secondes. Seigneur, merci, j'ai pu faire ça, ça, ou j'ai vécu ça. C'est quoi la suite ? C'est juste s'arrêter régulièrement pour entretenir une communion avec le Seigneur. Mais il faut quand même continuer. Donc Jésus, vous imaginez, Jésus est sur la montagne, il est dans sa gloire, il resplendit, il est plus blanc que la neige. Les disciples le voient, ils sont réveillés, Moïse et Élie apparaissent, et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, maître, il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent que Jésus avec eux. La vision ou l'expérience ou ce moment-là n'est pas terminée lorsque Pierre parle. La nuée, elle vient après sa prise de parole. Mais quand on écoute la prise de parole de Pierre, on se rend compte qu'il est bien sur terre, dressant 3 tentes. Tac, 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 tous dans le même paquet, on les met en boîte, ça c'est fait. On est dans ce point de jonction entre la terre et le ciel, toujours, même lorsque Pierre s'exprime. Et à un moment donné, il y a cette nuée qui se dépose sur eux. Et la nuée, dans la parole, ça représente la gloire de Dieu. Elle revient plusieurs fois, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Cette nuée, elle se dépose sur eux, la gloire de Dieu se dépose sur eux. Et à ce moment-là, une voix. La même voix que lors du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Qu'est-ce que Dieu a dit en plus au baptême de Jésus? Il a dit « En qui j'ai mis toute mon affection » ou « En qui j'ai mis toute mon approbation ». En fait, ça veut dire « Mais en Jésus, il y a tout ». Quand Jésus dit « Celui-ci », il ne dit pas Moïse ou Élie, c'est Jésus. Il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est-à-dire « Celui-ci, s'il est mon fils, c'est qu'il est de la même nature, de la même essence, de la même matière, si on peut dire ça comme ça, que moi. C'est-à-dire que celui-ci est Dieu. Et il a toute mon approbation, toute mon affection, tout est en lui. Mais il y a quelque chose que Dieu ajoute au moment de la transfiguration. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, je crois que Dieu est en train de dire, celui-ci, mon fils, ça n'est pas une réincarnation de Jean-Baptiste, de Moïse ou d'Élie. C'est une réponse à Marc 8, à partir du verset 27, quand il dit, mais qui dit-on que je suis? Mais non, on ne peut pas le mettre en boîte. Il n'est pas un de ceux-là. Il est bien au-dessus. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, écoutez-le. Et à quoi ça vous fait penser? Est-ce que cette parole-là, ça vous fait penser à quelque chose? Il y en a qui attendent, puis il y en a qui... Oui, Deutéronome. Ça vous en dit un peu plus? Deutéronome 18, verset 15. On est à la porte du pays promis. Les 40 ans dans le désert arrivent au bout. Les 40 ans de pérégrination arrivent au bout. Et Moïse donne ses dernières prescriptions au peuple. Et il est en train de prophétiser, peut-être même malgré lui, je ne sais pas. Mais il dit, l'Éternel ton Dieu, donc ton au singulier, c'est-à-dire toi Israël, toi le peuple hébreu, toi le peuple juif, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, écoutez-le. Selon les traductions, vous l'écouterez, mais c'est la même chose, il y a un impératif. Écoutez-le. Ça veut dire quoi, écouter dans la parole? C'est pas la même écoute qu'écouter un morceau de musique qui fait du bien. Ou d'écouter des ragots. L'écoute dans la parole, c'est l'obéissance. Quand il dit écoutez-le, ça veut dire obéissez à sa parole, à ce qu'il dit. Appliquez cette parole à votre vie, à votre cœur, à votre réalité, à votre quotidien. Obéissez. En réalité, quand je lisais ce passage, et je suis restée bloquée sur ce « écoutez-le » un bon moment, tellement ça me parlait tellement fort, je me disais, mais bien sûr, c'est un impératif, bien sûr, c'est une exhortation, mais c'est un commandement, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est une sommation. Il y a quelque chose de non-retour. Et si je vais encore plus loin, je dirais que c'est une supplication. Mais je vous en supplie, écoutez-le. Parce que tout est en lui. Et en dehors de lui, il n'y a rien. C'est mort. Seigneur. Ça m'a fait penser à Genèse 2, les versets 16-17, je vous donne beaucoup de versets ce matin. L'intensité de ce « écoutez-le », de cette supplication qui est comme une sommation. Vous savez, Genèse 2, les versets 16-17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, donc à l'être humain. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas ou ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cette traduction, on ne peut pas traduire comme en hébreu. En hébreu, il y a marqué, par le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. ça veut dire, en fait, c'est arrêter. Le tu mourras certainement, c'est pas, il y a des risques que tu meurs. Ça veut dire, le jour où tu en manges, tu es mort. C'est arrêté, c'est comme ça, c'est non-retour. Eh bien, de la même manière, s'il y a cette supplication de Dieu qui dit « n'en mange pas, parce que ça va te faire du tort, n'en mange pas », eh bien, de la même manière, Dieu dit « écoutez-le, parce que si vous l'écoutez, ça va vous faire du bien ». On a les antagonistes. Écoute le Seigneur et tu as la vie. Dernièrement, vous savez, je fais partie de plusieurs groupes de prière ou de partage ou tout ça. J'ai plusieurs pastorales, que ce soit au niveau de la ville, au niveau du canton, au niveau de l'Union des églises de réveil, au niveau de plusieurs choses. Et je vais dans plusieurs endroits aussi pour essayer de tisser des ponts et de comprendre aussi ce que nous vivons en Suisse et dans la région, etc. Et j'étais dans un de ces groupes et on partageait à propos de Philippiens 1, qui dit que votre amour augmente de plus en plus en pleine intelligence et en connaissance, etc., et pour être prêt au jour de Christ. Que votre amour augmente. Et on faisait cette réflexion, mais en fait, c'est pas d'abord que notre amour pour le Seigneur augmente, mais c'est l'amour les uns pour les autres. Parce que plus cet amour va augmenter, plus nous connaîtrons le Seigneur. Que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et intelligence spirituelle. Parce que si je commence à aimer quelqu'un qui me cherche des poux et que je vais réagir avec amour, je vais commencer à éprouver le caractère du Seigneur en moi. Et je vais commencer à le connaître. Mais pour ça, il faut connaître la parole. Et on est en train de parler de ça, du fait qu'il faut d'abord s'aimer les uns les autres. Et à un moment donné, il y a une personne qui réagit, une personne qui est leader, hein, chrétienne donc, une personne leader qui est censée, ou qui enseigne, qui dirige des gens, et qui dit « oui, mais c'est difficile ». Bien sûr que c'est difficile. Est-ce que la parole est facile ? Oui et non. Mais est-ce que c'était la question ? Et cette personne a commencé à dire, parce que moi, il y a un tel, et il le nomme, et il commence à dire ce que ce un tel a fait. En fait, c'était pour nous une occasion de chute, pour nous mettre à juger, critiquer toute une situation. J'étais au cinéma. J'ai commencé à regarder, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, cette personne était en train d'effleurer la parole. Un professionnel de la parole de Dieu. Qui contestait la parole. C'était facile pour lui d'aller dire aux gens « aimez-vous les uns les autres ». Mais que cette parole, tout à coup, le rejoigne dans sa personne, dans ses tripes, et vienne lui dire « écoute, par rapport à cette personne que tu viens de nommer, il y a peut-être quelque chose en toi qu'il faudrait régler ». Eh bien non, il a préféré survoler. Au point que quelqu'un, et là c'est un homme déjà d'un certain âge, rempli du Seigneur, rempli de la parole de Dieu, avec une bonne voix d'un grand papa qui dit ouais, « ça me fait penser ». Il n'y avait aucun jugement, mais il dit « ça me fait penser à… » Vous savez, dans Jean 6, quand Jésus a dit des paroles difficiles et qu'il y a plusieurs de ses disciples, pas les 12, mais les plus larges, il y en a plusieurs qui sont partis parce que les paroles étaient dures. Et puis Jésus, il regarde ses disciples et il dit « et vous ?» Voulez-vous aussi vous en aller ? J'étais au cinéma. J'étais, waouh, Seigneur, est-ce que ces gens qui sont avec moi se rendent compte de ce qui est en train de se passer ? Parce que les gens commentaient, essayaient de sauver le truc. Enfin, tout le monde a essayé de voilà. J'étais, Seigneur, Seigneur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'il y a cette parole, ce commandement, cette sommation, cette supplication qui nous dit « écoutez-le », c'est-à-dire obéissez, laissez-vous toucher par cette parole, laissez-vous transpercer par cette parole. Elle n'est pas facile. Il y a des choses qui font mal. Moi, dernièrement, j'ai lu des choses toujours dans l'évangile de Marc qui sont venues me titiller dans mes incompétences, dans mes échecs. Et je dis au Seigneur, mais j'ai déjà tellement essayé de changer ça. J'ai encore pas trouvé le chemin. Mais il y a un effort à faire pour dire, OK, je reconnais, je suis en échec, mais je reconnais qu'en toi, il y a une possibilité de changement. Viens, viens me rejoindre, montre-moi, aide-moi à m'aplatir devant toi et parfois devant les autres. Il faut se laisser transformer par cette parole, parce qu'il y a tout, il y a tout là-dedans, parce que la parole, c'est Christ. Et que Dieu le Père a mis toute son approbation, il a tout mis dans le Christ. Paul disait « Christ est ma vie » et mourir m'est un gain, parce qu'il sait que s'il meurt, il sera pleinement en Christ. Christ est notre vie. Vous savez ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de la vie. Moi, ça me réjouit. On va agrandir on va pousser les murs pour faire de la place. Alléluia. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples ont vu Jésus dans sa gloire. Ils ont vu Moïse et Élie, qui eux n'étaient pas resplendissants, mais qui étaient bien vivants. Ils s'entretenaient avec Jésus. Ils ont vécu quelque chose de complètement fou. Mais ils ne peuvent pas encore le comprendre. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre que Jésus leur dit, n'en dites rien à personne avant que je sois ressuscité, avant que le Fils de l'homme, donc Jésus, soit ressuscité. En réalité, pour que les disciples puissent comprendre la révélation, ce qui leur a été révélé, il faut que Jésus soit crucifié. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il soit enseveli. Il faut qu'il ressuscite. Et même, il faut qu'il remonte au Père. Et il faut qu'il envoie son Saint-Esprit. À ce moment-là, Pierre et les autres disciples n'ont pas compris qui est Jésus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent, mais alors pourquoi est-ce que les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Ils focalisent tout sur Élie. Mais le Messie, ce qui est dit du Messie, que le Messie doit souffrir, ça tout le monde a mis de côté, et pas seulement les disciples. Et cette question qu'ils demandent à Jésus en descendant de la montagne prouve qu'ils n'ont pas compris. Et s'il y a un principe qu'il faut retenir, quand on a des temps d'intimité avec le Seigneur, qu'on monte sur la montagne et qu'il se révèle à nous, que sa parole commence à nous transpercer et qu'on commence à comprendre des choses. Ça peut être nos temps d'intimité à la maison, mais même peut-être que ce matin, pendant la louange, vous avez reçu quelque chose pour vous. Les temps d'intimité peuvent se passer dans plein de circonstances différentes. Mais quand vous avez reçu une révélation, une compréhension, quelque chose, il y a un principe de gestation. N'en parlez pas trop vite. Ne racontez pas trop vite ce que vous avez vécu pour vous-même. Et si c'est pour le transmettre à d'autres, attendez que ça mûrisse avant de le donner aux autres. Parce qu'il faut protéger la vision. Encore le premier chant que nous avons chanté. Il faut protéger. Il y a un principe de gestation. Cette révélation, il faut qu'elle se fasse chair en nous, il faut qu'elle grandisse. Vous savez, c'est comme une grossesse. Pour qu'il y ait grossesse, c'est-à-dire conception d'un enfant. Pour moi, la conception d'un enfant, c'est ça, la révélation. Enfin, c'est l'enfant, la révélation. Mais pour qu'il y ait grossesse, il faut être seul à l'écart et sur la montagne. Il faut de l'intimité. Et le fruit de cette intimité, c'est la conception d'un enfant. Mais au départ, la grossesse, elle est invisible. Parce qu'il faut tellement protéger cet enfant. Et ensuite, la grossesse se développe. Mais, vous savez, une fois que le bébé est dehors, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. Eh oui. Mais c'est la même chose pour la révélation. Une fois que tu as raconté ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux plus aller le reprendre. Une fois que tu as enseigner des choses sur le Seigneur, tu ne peux plus aller reprendre. Alors tu as avantage à ce que ces choses soient mûres. Et quand tu as compris quelque chose pour ta propre vie, attends qu'elle te transforme. Attends qu'elle ait fait son effet. Parce que si tu vas juste dire, ouais, le Seigneur m'a dit qu'il faut que je règle tel problème, ben, une fois que tu l'auras dit, c'est comme si tu t'en es dédouané. Puis tu ne vas pas le régler. Mais si le Seigneur t'a dit, il faut que tu règles tel problème et que tu reviens pendant ta journée, que tu reviens demain, après-demain, le temps qu'il faut, et que tu cherches avec le Seigneur comment régler ce problème, parce qu'il ne va pas juste te dire « règle ton problème », il va te dire « marche avec moi, puis je vais te montrer comment régler ton problème, je vais le faire avec toi ». Eh bien, si tu vas sur ce chemin, là tu pourras être vraiment transformé. Ça, c'est de l'écoute de la parole. Ça, c'est de comprendre comment la révélation fait son chemin dans ton cœur. Il faut protéger les révélations que nous recevons. Et pour recevoir des révélations, il faut être intime. Et pour être intime, il faut se mettre à l'écart. Il faut avoir des temps seuls, cœur à cœur, avec le Seigneur. Et se laisser toucher par la parole. Vous allez vous souvenir de la phrase du début ? Dieu se révèle dans l'intimité. Et s'il se révèle, c'est pour nous transformer. Évidemment, si c'est pour nous transformer, c'est pour que ce soit à sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Et Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que cette parole fasse son chemin dans nos cœurs. Je te demande que nous ne sortions pas de cette salle sans être résolus dans notre cœur de gravir cette montagne chaque jour de notre vie. Que chaque jour de notre vie, nous ayons des temps seuls avec toi. Que nous marchions pour nous mettre à l'écart de tout péché, de toute chose qui vient brouiller les pistes, qui vient brouiller la connexion avec toi. Je te demande, Seigneur, qu'il n'y ait pas un jour de notre vie sans que nous soyons intimes avec toi. Je te demande, Jésus, que nous sortions de cette salle seulement avec la résolution dans notre cœur de gravir la montagne de l'intimité avec toi. Prépare nos cœurs à désirer ardemment la révélation. Comme le psaume de ce matin, mon cœur a soif de toi, mon cœur soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Eh bien, je te demande que notre cœur aspire, soupire à ta révélation et que lorsque nous sommes intimes avec toi, c'est dans l'attente que tu te révèles, parce que je sais que tu le fais. Accorde-nous un cœur bien disposé pour être touché par ta parole, qu'elle fasse son œuvre en chacun de nous. Apprends-nous à la creuser plutôt que la survoler. Oh Seigneur, merci pour la puissance de ta parole. Jésus, je suis reconnaissante que ton esprit encore et que ta nuée nous couvre. Viens nous convaincre, viens convaincre nos cœurs. Transforme-nous à ta gloire. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Merci. Amen.